Madame Julien, aujourd'hui, Monsieur Julien va nous décrire la vie à Saint-Antonin sous la République protestante. Et pour illustrer cette période de troubles, qu'allez-vous nous faire écouter ?
Nous écouterons des extraits de la symphonie numéro 6 de Mahler. J'ai essayé de retrouver dans la musique le climat dramatique de ces guerres dites de religion qui ont secoué notre pays durant 36 ans. Cette symphonie, avec son caractère très pessimiste, son aspect chaotique et déroutant, m'a paru convenir assez bien. Par contre, le dernier intermède musical sera un chant d'espoir dans une ville qui, malgré tout et peu à peu, s'organise pour vivre en paix. C'est un cantique de Noël.
Monsieur Julien, en 1562, les protestants deviennent maîtres de Saint-Antonin. Ils le resteront pendant plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui, vous allez nous décrire la vie des Saint-Antoninois pendant cette période.
Oui, mais évoquer la vie à Saint-Antonin sous la République protestante est une entreprise difficile. En raison même, et cela peut vous paraître paradoxal, de l'abondance et de la richesse de la documentation que nous possédons. Sachez que pour une seule période de 20 ans, qui va de 1561 à 1582, les consuls de l'époque ont rempli deux registres de leurs délibérations, l'un de 816 pages, l'autre de 744. Actuellement, avec le même papier, on enregistrerait les délibérations de deux siècles. Ces deux registres constituent une véritable chronique, presque jour par jour, et je dirais même certains jours, heure après heure, puisque certains jours, il y a eu jusqu'à 5 réunions du Conseil. Une chronique, donc, de l'histoire de notre cité, mais aussi, et surtout, et c'est ce qui m'a frappé, de l'histoire de France pendant cette période tragique des guerres de religion. La meilleure méthode, donc, serait, ou aurait été, de lire, de vous lire, tout au long, ces pages remplies d'une écriture hermétique. Alors, on prendrait mieux conscience de la terrible tempête qui a secoué tout le pays, notre pays, certes, mais la France aussi, avec ces vagues de fièvre, au moment de la reprise des hostilités, avec les creux plus paisibles qui suivaient traditionnellement la promulgation des 8 édits de pacification, parce qu'il y a eu 8 guerres, dont 8 édits de pacification accordés par les rois, ces rois impuissants que sont Charles IX ou Henri III, et enfin Henri IV, qu'il était impuissant au début du moins.
Thank you.
Monsieur ouais. Julien, vous nous disiez que ces registres tenus par les consuls permettaient d'avoir une très bonne idée du déroulement de la guerre dans toute la France. C'est un peu étonnant parce que Saint-Antonin était quand même une ville assez isolée.
Relativement isolée physiquement, et peut-être, oui, en raison de sa situation. Mais à partir du moment où Saint-Antonin est devenu, s'est livré au protestantisme, et n'oublions pas qu'elle a été l'une des premières villes de la région, avec Montauban et Villefranche, à se convertir au protestantisme, à partir de ce moment-là, et étant donné qu'elle a gardé cette nouvelle religion pendant plus d'un demi-siècle, qu'elle a su la défendre contre toutes les entreprises des catholiques, elle est devenue un peu une cité symbole, une sorte de capitale du protestantisme, au même titre que Millau, à l'autre extrémité du Rouergue, et un peu moins sans doute, mais enfin, presque égale à Montauban. Autrement dit, Saint-Antonin a été une référence pour les protestants. Et elle n'a jamais été prise pendant toutes les guerres de religion. Elle n'a jamais succombé. Le culte catholique n'a jamais été aboli. Et ça, c'est un titre à l'estime, à la considération. Et l'on comprend pourquoi un grand synode s'est tenu à Saint-Antonin en 1572, à Saint-Antonin et pas dans une autre grande ville. C'est que c'était donc un centre, d'où des échanges continuels avec les autres villes protestantes. Et d'où ces volumineux registres de délibération.
Oui, donc Saint-Antonin maintenant est administré par des consuls protestants. Je suppose qu'ils vont tout mettre en œuvre pour que la ville reste protestante.
Oui, et c'est sans doute leur but. S'ils se sont mis en place eux-mêmes, comme nous l'avons vu, ce n'est pas pour laisser la place aux catholiques. Mais d'abord, situons un peu les choses, un peu mieux les choses si vous voulez, et voyons quelle sera leur première décision importante. Au mois de janvier 1563, le sénéchal du Rouergue leur commande de verser les contributions nécessaires pour payer les frais qu'a entraîné la guerre qui a eu lieu pendant l'année 1562, guerre, nous le savons, qui s'est traduite à Saint-Antonin par l'implantation du protestantisme. Donc le sénéchal, le chef hiérarchique des consuls, leur réclame des fonds. Et alors, ils vont répondre qu'ils ne veulent pas donner de fonds. Et voici sur quel ton. J'extrais ce texte du premier registre. Attendu que toute cette année passée, et encore, le cardinal d'Armagnac et autres ennemis de Dieu et du roi, notre sire, et du repos de ses vrais et fidèles sujets, ont mis sus et se sont efforcés de surprendre et envahir la présente ville pour couper la gorge à tous les habitants d'Issèle, sans faire exception de religion ni de sexe, et pour piller tout ce qu'en Issèle serait, et la mettre et rendre sujette à autre qu'à mon dit Seigneur, notre roi et prince naturel. Et ont tenu grand nombre de soldats et gendarmeries en ce pays de Rouergue, pour raison de quoi ils voudraient maintenant imposer ce qu'ils ont dépensé et le faire payer au pauvre peuple, bien qu'il l'ait tout ruiné et meurtri pendant toute l'année. Jouant aussi, ajoute-t-il, que les dits tyrans, les tyrans c'est le cardinal d'Armagnac, et ennemis, avaient prohibé et défendu à tous les circonvoisins de la présente ville de ne y porter aucune chose que ce fût en Issèle, ni converser avec les habitants à peine d'être pendus. Voilà sur quel ton y répondent au sénéchal. Ce texte, bref, mais lourd de sens, désigne l'ennemi de la ville. C'est le cardinal d'Armagnac, donc l'Église catholique. Je précise que le cardinal d'Armagnac, Georges d'Armagnac, était archevêque de Toulouse et baron de Caussade. Et ce texte aussi dénonce le blocus imposé à notre ville, citadelle protestante, isolée dans un pays hostile. Parce que c'est ça qui est important. Cela va donc déterminer la politique des consuls protestants dans la conduite des affaires municipales dès cette année 1562 et jusqu'en 1622, date de la mort de la République protestante. Ce sont donc, leur objectif est le suivant, double, lutter contre l'Église catholique à l'intérieur de la ville et lutter contre l'Église catholique à l'extérieur. Il leur faut d'abord assurer la sécurité de la ville contre les entreprises des ennemis du dehors, qui sont présents là, pensez-y, ils sont là tout autour. Depuis Caylus, ils partent. Depuis Espinasse, ils partent. Depuis Sept-Fonds, ils partent. Depuis La Roque, ils partent pour venir donner l'assaut ici. Ils sont là tout autour. Et on procède pour cela aux travaux considérables de renforcement des fortifications. Des 6 portes de la ville, 2 seulement resteront ouvertes, sévèrement gardées nuit et jour. La porte Perrière et la porte du Pré. Les autres seront murées tout simplement. Et ces 2 portes ouvertes seront munies d'une rastelle des fers, c'est-à-dire d'une herse, d'une grille, suspendue par une corde qu'il suffit de couper quand l'ennemi se présente pour immédiatement barrer l'entrée. Pour éviter toute surprise, on a dégagé les avenues, comme on disait, de la ville, autant que la vue peut s'étendre. Tout sera abattu et rasé de ce qui peut constituer un abri à l'assaillant. Maisons que l'on avait récemment construites depuis la fin de la guerre de Cent Ans dans les faubourgs de la porte du Pré de la Condamine. Ces maisons seront mises à bas. L'hôpital des lépreux à Orbanest, à la Maladrerie, sera rasé. Et surtout, toutes les murailles des jardins seront abattues. Tous les arbres fruitiers, pommiers et noyers seront coupés à ras de terre. On fait table rase et place nette. Rendez-vous compte du courage qu'il fallait pour faire ça. C'est la politique de la terre brûlée avant la lettre.
Oui, et est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup d'attaques des villes environnantes qui justifient des travaux d'une pareille ampleur ?
À lire les registres de délibération, c'était permanent. À chaque réunion du conseil de ville, on entend quelqu'un qui dit que le bruit court, que les ennemis venus de Caylus, ou les ennemis venus d'Albigeois, ou les ennemis venus du côté de Puy-la-Roque, ou les ennemis venus de Montricou, se préparaient à surprendre et à envahir la ville. C'est en permanence, ça. Sauf pendant les courtes périodes de répit, mais en permanence, on a vécu à Saint-Antonin sous la menace de l'attaque et de la surprise. Alors voilà pourquoi, pour ne pas être surpris, on rase tout. C'est un désert autour de Saint-Antonin. C'est terrible, ça. Excusez-moi. Tous ceux qui ont ainsi perdu leur maison, et il y en a, ces maisons étaient habitées, seront relogés en ville, dans les maisons abandonnées par les ecclésiastiques et les papistes fugitifs. Fugitifs depuis, vous le savez, qu'en 1562, on a ruiné les couvents et on a pris des mesures contre eux. Pour assurer la défense de la ville, un gouverneur militaire est nommé, homme sûr et dévoué à la cause, par conséquent un protestant. Ce sera M. de Blanchefort d'abord, puis M. Delbosque, qui commande à une garnison de soldats arquebusiers jusqu'à 3 compagnies de 100 hommes dont l'entretien, la nourriture et le logement sont à la charge des habitants de la ville et surtout, et ça c'est malicieux, des paysans des environs, de la campagne, dont le zèle pour la nouvelle religion est lent à s'éveiller.
Thank you.
Monsieur Julien, ce sont donc de très gros moyens qui sont mis en œuvre pour transformer Saint-Onen en place forte.
Oui, des moyens considérables pour l'époque. C'est ainsi qu'on établira une fonderie de canons, je dis bien de canons, dirigée par un maître de l'artillerie venu de Castres. Castres, c'est une ville amie aussi. Pour cela, on réquisitionne tout le cuivre nécessaire chez les particuliers. On fait une imposition en matière, si on peut dire, suivant la richesse des gens, précisons-le. On prend tout le cuivre et le laiton provenant du mobilier des églises. Et bien entendu, on descend toutes les cloches, les nombreuses cloches des différentes chapelles et églises qui seront fondues. Et l'un des canons, ainsi nouvellement fabriqué, sera appelé le casse-messe. Les serruriers sont réquisitionnés pour fabriquer les hallebardes, des piques, des fourches. Et l'on achète 50 mousquets. La ville devient une forteresse d'où peuvent partir à volonté des commandos, le mot n'existait pas à l'époque, des commandos de soldats qui vont donner l'assaut à Caylus, au château de Casse, à celui de la capelle Livron, à Varennes, reprendre Verfeil, cité protestante amie dont les papistes s'étaient emparés. Chacune de ces sorties est une véritable razzia dont on ramène vivres et bétail, ce qu'on appelle le butin. Pratique courante en ces temps-là. Ce n'était pas du pillage, c'est du butin. Officiellement déclaré d'ailleurs auprès des consuls qui en font le partage, réservant à ceux qui l'apportent une bonne part et affectant la vente du reste, soit à la nourriture des habitants, soit à la fortification, comme il disait, de la ville. Ainsi, au fil des ans, tout au long de ces 30 années, s'affirmera l'importance stratégique de notre ville, une véritable place de sûreté sur laquelle pourront compter tous les seigneurs et chefs militaires protestants, le vicomte de Bruniquel, notre voisin, le vicomte de Gourdon, le comte de Crussol, lieutenant du roi en Languedoc, et plus tard, messeigneurs les princes de Condé et Navarre, qui auront une grande confiance dans la puissance militaire de Saint-Antonin, dont j'ai dit déjà qu'elle n'avait jamais été prise par les catholiques en dépit d'assauts furieux. Concédons que Caylus, ville catholique et ligueuse, n'a jamais pu être prise par les protestants de Saint-Antonin. Il faut aussi assurer la sécurité à l'intérieur de la ville, où la cohabitation des soudards et des particuliers n'est pas facile, loin s'en faut, où les catholiques mènent sans cesse à couvert des conspirations. Cette ville où se cachent des espions venus du dehors. Nombreuses seront les opérations de police prises contre les larrons, voleurs et meurtriers. Et pendant ces années-là, la prison de ville ne désemplit pas.
Monsieur Julien, tous ces moyens mis en œuvre pour transformer Saint-Antonin en place forte doivent être ruineux pour l'économie saint-antoninoise. Oui.
Subvenir à tous ces travaux de fortification et d'armement, maintenir pendant des mois une population en état d'alerte, entraîne des dépenses considérables qui seront couvertes plus ou moins bien. Enfin, au début, elles seront couvertes par la saisie des biens et revenus des couvents, des ecclésiastiques, qui étaient riches, surtout les chanoines, et des papistes fugitifs. Le produit considérable des dîmes du chapitre en particulier, chapitre des chanoines, sera particulièrement bienvenu et constituera tous les ans une base de recettes. Par ailleurs, les impôts royaux, la taille, la règle, la pesade, le péage, seront tous les ans consciencieusement levés sur les habitants. Mais on s'abstiendra d'en verser le montant au trésorier royal du Rouergue à Villefranche, c'est-à-dire au Sénéchal. On justifiera innocemment cette désobéissance de fait au pouvoir royal par la nécessité d'employer cet argent à la fortification et défense de la ville pour la garder, écoutez bien, au roi, notre prince naturel. Ce roi, dont on répète qu'on veut lui obéir à tout moment et à tout propos, mais en parole seulement. Il est vrai que le roi de France a maintenant perdu tout prestige auprès des Saint-Antoninois. D'ailleurs, quelle autorité pouvait avoir en 1563, par exemple, ce pauvre petit Charles IX, à peine âgé de 11 ans? Bon, mais quoi qu'il en soit, les biens des ecclésiastiques ne sont pas inépuisables. Les dépenses vont croître au cours de ces 30 années et effectivement, les Saint-Antoninois vont connaître des périodes particulièrement difficiles. Viendra le moment où les consuls déclareront qu'ils n'ont plus d'argent dans leur bourse et la misère sévira dans la ville, une terrible misère. La meilleure façon d'assurer la sécurité et le bon ordre à l'intérieur de la ville, c'est en fin de compte d'agir sur les esprits et sur les consciences des adultes, bien sûr, mais d'abord des enfants. C'est le consulat protestant qui a établi l'école publique gratuite pour les enfants de la ville. Et l'on engage dès 1563 des régents d'école appointés qui seront tenus, écoutez bien, c'est ce qui figure dans leur contrat, de bien et dûment faire leur devoir à apprendre les enfants et écoliers de la ville qui s'y présenteront dans les écoles. Leur lire des offices de raison et autres bons livres de bonnes mœurs, non contraires à la parole de Dieu. Leur prohibant et défendant ne lire point livres scandaleux, réprouvés et contraires à l'honneur et pure parole de Dieu. Voyez qu'on insiste. Ces régents, curieusement, seront toujours choisis parmi les candidats venus d'ailleurs. Le premier, il vient de Caylus. Ah, je ne sais pas pourquoi. L'autre, de Parisot. Puis, dans les années suivantes, on en prendra de Provins ou d'Étampes. Voyez donc un peu. Sans doute n'y avait-il alors à Saint-Antonin personne capable d'enseigner en français, seule langue officielle maintenant, ici, à Saint-Antonin. C'est la langue utilisée par les ministres protestants formés à Genève. Le mouvement protestant, il faut bien le dire, même si on le regrette, a été délibérément francophone. La langue occitane écrite a commencé alors, à ce moment-là, sa décadence.
Oui, monsieur Julien, l'école devient donc gratuite. Est-ce que ça amène à l'école beaucoup d'enfants ?
Il est douteux que tous les enfants de la ville aient fréquenté l'école ainsi ouverte par les consuls. Je pense qu'une minorité d'enfants devait la fréquenter. En tout cas, on n'a jamais engagé plus de deux instituteurs, plutôt deux régents, puisque le mot instituteur ne date que de la Révolution, plus de deux régents à la fois. En admettant, ce qui est acceptable, que chaque régent pouvait accueillir 50 enfants, nous sommes loin des 25 élèves par classe, hein, c'est une autre époque. 50 dans chaque classe, en gros, 100 enfants au maximum fréquentaient l'école, à mon sens, et peut-être pas tous les jours.
Oui, par rapport à la population qui était très
qui était
importante.
Énorme, qui était de 4000 ou 5000 habitants, c'était ridicule, n'est-ce pas? Il faut penser que les pauvres gens, les misérables, les malheureux, les pauvres, n'ont pas du tout l'utilité d'envoyer leurs enfants à l'école. Oui. D'ailleurs, cette école ne durait pas toute l'année, hein, il faut bien le savoir, ça.
C'était quelle période, la
oui,
scolarité?
Sur les registres, on engage le ou les régents. On les engage en novembre, en décembre, quelquefois même on tarde jusqu'en janvier. Et le traité d'engagement, le contrat que l'on signe avec eux, stipule bien qu'ils sont engagés jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire jusqu'au 24 juin, à la Saint-Jean d'été, donc, l'école publique de Saint-Antonin, gratuite, fermait ses portes. C'était des vacances, qui duraient évidemment jusqu'au mois de novembre ou décembre, jusqu'à ce qu'on ait engagé un autre régent.
Oui, et il y a personne à Saint-Antonin capable d'être régent. Est-ce que c'est très compliqué? Est-ce qu'il y a des diplômes difficiles pour être régent?
Alors là, pas du tout. Pas du tout. On engage n'importe qui. Le premier venu, sans doute, c'est le premier qui est venu, il s'appelait Deltey. Je ne sais pas pourquoi. Et on a pris ce garçon venu de Caylus, je ne sais pas. Enfin bon, il s'est présenté un jour en disant, vous avez ouvert une école, moi je veux bien tenir l'école. Et on ne lui demandait rien. Simplement, au bout de quelques années, on s'est aperçu que certains de ces régents n'avaient aucune compétence. Et qu'ils n'étaient pas illettrés, mais enfin, peu s'en fallait. Et le ministre protestant, le pasteur, a alerté les consuls en leur disant, mais c'est pas possible de confier la jeunesse à des gens qui ne sont pas de bonne vie d'abord. Sans doute c'était quelqu'un qui devait boire ou qui devait mal se conduire. Enfin bon, les consuls sont alertés. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir de 1567, on fera passer un examen au candidat régent qui est venu se présenter et les consuls désigneront une commission formée de deux consuls et des deux syndics. Les syndics, ce sont des fonctionnaires qui représentent la communauté de la ville, qui sont là pour défendre la ville. Et on lui fait passer un examen, mais les textes ne nous disent pas qu'est-ce qu'on lui demande. Je suppose qu'on l'examine physiquement, voir s'il présente bien, et puis on le fait parler, et puis on lui demande voir s'il a quelques connaissances, hein, lecture, grammaire et calcul. Voilà. Mais enfin, on s'assure quand même que qu'il est convenable, quoi.
est-ce qu'on sait où était située à Saint-Antonin l'école protestante?
Eh bien, nous ne savons pas où était l'école protestante. Ou plutôt, si nous le savons, un texte nous le précise, lorsque cette école a été ouverte en 1563, ouverte parce qu'il faut bien le dire, l'ancienne école Saint-Antonin que tenait les Carmes au bout de la rue de l'Escolo Bielio était en ruine, en même temps que le couvent des Carmes. Bon, et il n'y avait plus de local utilisable pour ça. Alors, les consuls nous disent en 1563 que l'école étant totalement ruinée, les écoliers seront hébergés, seront placés dans l'hôpital neuf. Et alors là, excusez-moi, mais je n'ai pas trouvé encore quel était cet hôpital neuf, ni où il était. Il est précisé que cet hôpital neuf ne sert à rien, qu'il n'a pas d'utilité, qu'il n'y a pas de pauvres dedans, et que les pauvres d'ailleurs étaient hébergés dans l'hôpital que nous connaissions, c'est le plus vieux d'entre nous ici qu'on appelait l'hospice. Et cet hôpital neuf, je ne sais pas, peut-être un jour je le découvrirai dans les textes. En tout cas, on l'aménage, il doit être un bâtiment en bon état, on y met les enfants dedans.